culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Auditeur, auditrice, bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Alors, tu es peut-être dans ton balcon en train de profiter du soleil, tu es peut-être en train de manger, alors si c'est le cas, ben bon appétit, ou tu es peut-être dans le métro avec plein de gens autour de toi, qui sait. Où que tu sois, sois le bienvenu, tu es ici, chez toi. Alors le Culte Espoir, c'est quoi ? C'est une émission où l'on aime parcourir la Bible, où l'on aime écouter des personnes qui témoignent de leur vécu avec Dieu. Nous avons aussi des invités qui viennent nous partager régulièrement des messages qui leur tiennent à cœur. D'ailleurs, avant de t'introduire notre invité du jour, faisons un petit tour de table. Mildred et Emma, bonjour.
Bonjour.
Salut, Brian.
Comment ça va ?
Ça va plutôt bien, ouais. Je suis contente d'être avec vous.
Moi aussi, je suis contente.
Plaisir partagé. Passons à notre invité du jour, Loïc Prager, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, on a eu le temps de se connaître un petit peu hors antenne. Alors, tu es musicien, hein, tu es bassiste, oui. Comme moi.
Cool. Ah là là, les grands esprits se rencontrent.
N'est-ce pas ? Tu es aussi étudiant en théologie, c'est ça ?
Tout à fait.
À la faculté de Adventiste de Collonges, c'est
exactement,
ça ?
Tout okay. À fait, en deuxième année.
Ok. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus sur ta présentation ?
Alors, la présentation que j'aurai à développer sera relative à l'arc-en-ciel. Alors,
d'accord.
Je propose un voyage coloré
dans
le texte biblique pour tirer l'essence existentielle que nous pourrons trouver dans le texte.
Voilà. C'est vrai qu'on aime tous regarder l'arc-en-ciel. Hein?
Ouais.
On est toujours enchanté.
C'est très joli, ouais. Mm-hmm. Ah. Eh bien, que l'Esprit t'inspire et nous guide dans la découverte des trésors de la Bible. Auditeur, auditrice, bonne écoute.
Nous avons toutes les raisons de venir adorer Dieu aujourd'hui. Alors on va prendre un temps pour célébrer, pour chanter, pour danser devant Dieu. Et lui dire combien il est bon, car ses bontés ne sont pas terminées. Chantons-le ensemble, célébrons-le. Jamais.
Voilà dans la chronique Dieu dans ma semaine, une chronique axée sur le vécu avec Dieu pendant notre semaine. Alors Emma, la parole est à toi.
Merci. Alors en préparant cette chronique, je me suis rendu compte de quelque chose qui s'est passé il y a quelques semaines, c'est pas cette semaine. En fait, j'ai fait un stage de 2 mois entre janvier et février et je dois avouer que c'était vraiment intense. Je devais me réveiller tôt, mais j'avais aussi les cours du soir, donc je dormais pas beaucoup. Et les journées étaient très fatigantes.
Ah, c'est dur, hein, de tenir.
C'est dur, vraiment, ouais. Surtout 2 mois. Et au début de ces 8 semaines, je me suis dit, mais comment je vais faire? J'en suis qu'au début de mon stage et je suis déjà hyper fatiguée. Et donc, il n'y a rien qui allait. Je me plaignais tout le temps que c'était long, que j'étais fatiguée, que si, que ça. Et vers le milieu de mon stage, j'étais à l'église et je me plaignais à quelqu'un de mon stage. Et cette personne m'a dit, mais Emma, tu devrais déjà être reconnaissante de pouvoir étudier ce que t'aimes. Et d'abord, je me suis dit, mais quand même, elle pourrait me soutenir dans ma situation.
Un minimum, quand même.
Quand même.
Elle va pas dans le sens,
ouais,
dans le bon sens.
Exactement.
Là.
Et puis après, j'y ai repensé, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, je vois tout négativement. Mais je devrais juste arrêter de me plaindre et regarder qu'aux choses positives. Et il y en a beaucoup de choses positives, en vrai. Et c'est juste que parfois, on est fixé sur le négatif et on voit plus que ça. Et c'est là que j'ai commencé à voir les petites choses positives par-ci, par-là. Et mon stage, il s'est passé beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Et j'étais super reconnaissante à Dieu de tout ce qu'il a fait pour moi. Donc ça m'a appris que des fois, il faut juste tourner son regard.
Alors, pour la chronique Promesse du jour, j'aimerais te lire un verset qui t'invitera justement à tourner ton regard, comme tu disais, Emma. C'est une parole qui soutient et qui rend plus fort dans les souffrances. Elle se trouve dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, au chapitre 41, le verset 10. Il y dit ceci. « N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. » Alors, auditeurs, auditrices, sois abondamment bénis et soutenus par notre Dieu aimant. Alors, toi qui nous écoutes, j'imagine qu'il t'arrive de passer des semaines où tous les matins, tu reproduis les mêmes gestes répétitifs au lever, les mêmes pensées du style... Oh, toujours cet horrible réveil qui en plus me réveille pour aller au travail. Alors, tu sais, cette impression que tes journées n'ont plus vraiment de sens et tu te morfonds dans une sorte de découragement, de lassitude profonde. Bah, le chant que je vais te faire écouter résume bien ce lot de jours que l'on peut répéter inlassablement avec ses gestes et pensées du quotidien. Mais elle dénote aussi un regard bien différent, celui d'une journée accompagné par la force créatrice du Dieu vivant.
La montre sonne, il est 6 heures et mes yeux s'ouvrent au son du réveilleur, au-dessus le plafond tout blanc. Je n'ai pas la moindre chance. La même journée recommence, Chaque matin le même refrain, chaque jour les mêmes papiers peints, chaque jour les mêmes gestes, les mêmes choix, les mêmes restes de vie qui s'en vont dans le temps. Chaque fois les mêmes voix, chaque jour le même jour, chaque soir le même demain, chaque matin la même journée qui s'éteint. J'éteins la lumière, il est 23 heures, mes yeux se ferment au son du répondeur. Au-dessus mon plafond s'éclaire, des lampadaires de ma rue. Je soupire et j'espère que je m'endors ce soir pour la dernière fois, que peut-être demain je me réveillerai enfin. Chaque matin même refrain, chaque jour les mêmes papiers peints, chaque jour les mêmes gestes, les mêmes choix, les mêmes restes de vie qui s'en vont dans le temps. Chaque fois les mêmes voix, chaque jour le même jour, chaque soir le même demain, chaque matin la même journée qui s'éteint. La montre sonne, il est 6 heures et mes yeux s'ouvrent au son du réveilleur. Et dans le silence assourdissant, une voix me parle comme un chant. Que veux-tu faire de ce jour? Le vivre sans moi, encore et encore, ou le vivre avec moi, juste essayer pour voir. Si chaque matin était différent, si chaque jour était important, si chaque jour était une pierre en plus à la cathédrale que tu ne vois pas encore. Et chaque jour je te désire prophète, et chaque jour peut-être une fête, chaque jour peut-être un chant d'amour qui se répand sur toi et sur eux tout autour. La montre sonne, son du réveil, au-dessus le plafond tout blanc est comme une belle page blanche. Tu la remplaces chaque nuit pour y écrire une page différente que je pourrais lire avant de m'endormir. Et chaque matin chaque jour est important, et chaque jour est une pierre de plus à la cathédrale que je ne vois pas encore. Et chaque jour il me désire prophète, chaque jour devient une fête, chaque jour devient un chant d'amour qui se répand sur moi et sur eux tout autour.
Pour cette chronique « Dieu agit », Amandine a été à la rencontre de Béa. Elle avait entendu une partie de son témoignage dans son église et celui-ci l'avait beaucoup touchée. Béa a accepté de partager un bout avec nous. Alors, écoutons ensemble.
Je revenais d'Afrique avec ma famille et mon mari a brutalement lâché toute la famille. Il est parti avec quelqu'un d'autre. Donc, je me suis retrouvée en Europe. Normalement, on y était pour 2 années d'études et du coup, il est parti avec cette autre personne et il a abandonné la famille, donc moi et les 3 enfants. Donc, je me suis retrouvée toute seule avec 3 enfants en Europe. Et j'avoue que le moral était en berne, très en berne. Mais j'avais déjà fait une expérience avec Dieu quelques années avant. Peut-être ça sera un autre témoignage, je ne sais pas. Où j'ai appris vraiment dans mes tripes que Jésus m'aimait et qu'il m'aimait inconditionnellement. Donc j'avais cette force que je savais que même si moi je me trouvais nulle et archi nulle, ben Jésus, pour lui, j'avais de la valeur. Et ça m'a donné de la force à passer dans tout ça, même si j'ai passé par des moments où je ne voyais mais plus rien de positif dans ma vie, quoi. Alors, je n'ai pas mis Dieu en question suite à l'expérience que j'avais eue avec lui. Je savais que c'était du domaine absolument humain. Mon mari est un homme humain, comme moi, je suis une femme humaine. J'ai probablement mes torts, lui, il a ses torts. Et donc, ça se passe au niveau humain. Et ça se passe au niveau de la tension qu'il y a entre le bien et le mal. C'est vrai que j'ai eu pendant cette période l'aide d'une psychologue qui m'a aidée à faire les démarches au jour le jour. Ça m'a beaucoup aidée. Il y a eu des moments très sombres où vraiment je n'arrivais plus à voir quoi que ce soit de positif. Et j'étais à questionner Dieu, mais voilà, c'est... Comment est-ce que je vais m'en sortir?
Et alors, t'as fait quoi?
Ben, déjà, tu pries. Mmh. Et tu pries et j'ai vécu plein de petites expériences quand j'étais vraiment au fond du trou. Ça, j'en ai plein à te raconter. Mmh. Et chaque fois, Dieu m'a montré qu'il était là, qu'il était présent. Et qu'il était là, je ne sais pas, une fois j'étais découragée, je suis allée dans la forêt pour pleurer parce que j'en pouvais plus, je ne voulais pas montrer aux enfants que j'étais découragée. Il y a un renardeau qui est venu s'asseoir devant moi. Mais je vais dire, ce n'est pas des choses naturelles. Ah, un renardeau, il ne vient pas s'asseoir devant un humain. Et plein de trucs comme ça. Alors, effectivement, mon regard était plutôt négatif sur tout. Je voyais tout ce qui n'allait pas, tout ce que je n'arrivais pas à faire. Et une amie a eu l'idée géniale de me dire, « Béa, si tu veux t'en sortir, il faut que tu changes ton regard. »
C'est difficile.
Ah, ben, c'est pas évident. Effectivement, elle m'a dit, « Écoute, prends un petit carnet. » Et puis, note chaque jour ce qui t'arrive de positif. Et puis, j'avais quand même au fond de moi l'envie de m'en sortir à cause de mes enfants, je me suis dit, bon, ok, j'ai trouvé un carnet, un tout petit carnet. J'ai regardé les carnets que j'avais à la maison, mais ils étaient tous trop grands. Et j'ai fait, je ne sais pas, 3-4 papeteries. Et finalement, j'ai trouvé un tout petit carnet de 2 cm sur 5 ou 3 sur 5. C'est vraiment un tout petit carnet. Et je me suis dit, bon, ça va le faire. Donc, tu vois comment j'étais dans ma tête. Je voulais bien suivre le conseil de mon ami, mais c'était difficile. Et puis, je me suis dit, bon... Qu'est-ce que je vais marquer là-dedans? Bon, comme il arrive rien de bien, je vais noter quand quelqu'un me salue. Et puis, petit à petit, à force de marquer toutes ces petites choses, mon carnet, la page ne suffisait plus pour la journée. À un moment donné, j'ai dit, ben voilà, il y a beaucoup de choses positives, effectivement. Donc, pourquoi me concentrer sur ce qui ne va pas au lieu de me concentrer sur ce qui va et ce qui est positif? Et c'est là, effectivement, que j'ai pris une décision. C'est un choix que j'ai décidé. À partir de maintenant, chaque jour, je vais souligner en rouge dans ma tête ce qui est positif.
Donc aujourd'hui encore, là, tu n'es plus en dépression, tu es
sortie
pas du de
tout.
Cette période.
Je suis absolument sortie.
Et aujourd'hui, tu continues à prendre des notes dans un carnet, du coup ?
Non, je ne continue pas à prendre des notes dans un carnet. Mais là, quand vous êtes arrivés, je vous ai dit, j'ai passé la journée au jardin, c'est magnifique, il y a les jonquilles qui commencent à s'ouvrir, il y a les abeilles, elles bourdonnent, là j'étais voir mes abeilles, elles sont jaunes de pollen, quoi. Elles ont des pelotes, il y en a qui n'arrivaient même pas à atterrir sur la ruche parce qu'elles étaient trop lourdes, et je trouve ça marrant, quoi. Toutes ces petites choses, je les vois maintenant, je les vois et je trouve ça magnifique et du coup, je suis heureuse.
Puis tu m'as dit que ça a aussi impacté ta manière de prier et de vivre ta foi avec Dieu.
Ben oui, parce qu'avant, c'était des demandes, que des demandes à Dieu. Et alors là, je peux le remercier pour tout ce qui est positif. Hein, c'est comme quand on rencontre un ami et que cet ami te raconte tous les malheurs qui lui arrivent, ben finalement, c'est triste, quoi. Et Dieu, il est plus triste avec moi parce que j'ai plein de choses à lui dire que j'ai vécu de positif, quoi. J'ai l'impression que ça le fait sourire.
Est-ce que tu as envie de conclure ce témoignage par quelque chose que tu as envie de transmettre aux auditeurs?
Alors, en fait, j'ai été un peu plus loin dans ma démarche en me disant que, effectivement, Dieu, il me voit dans mes côtés positifs. Alors moi, je peux aussi voir mon prochain, l'autre personne, dans son côté positif. Et je souligne aussi, quand je rencontre quelqu'un, les côtés positifs.
Alors Loïc, la parole est à toi.
Merci Brian. Alors s'il y a un phénomène qui m'a toujours impressionné depuis ma plus tendre enfance, c'est bien l'arc-en-ciel.
Ouais, c'est vrai, ouais. C'est beau.
Et ce qui est intéressant, c'est que pour pouvoir l'observer, il y a des ingrédients qui doivent être présents et une position adéquate. Il faut de l'humidité, il faut une source lumineuse, le soleil entre autres, mais aussi il faut être dos à cette source lumineuse. Donc avant d'aller un peu plus loin et de décrypter un petit peu les couleurs qui sont présentes dans l'arc-en-ciel, j'aimerais plonger dans le contexte qui, bibliquement, va faire allusion à ce dernier. Ce qu'on va retrouver dans la Bible, notamment dans le récit génésiaque, l'arc. Mais avant cela, on se rend compte que la terre était pervertie. Nous sommes au chapitre 6.
Donc, dans Genèse, chapitre 6.
Genèse, chapitre 6,
okay,
en effet.
Le premier livre de la Bible.
Le premier livre de la Bible. Et dans celui-ci, on retrouve une description assez quand même intense et négative de ce qui se produisait sur la terre. On retrouve verset 5. Le mal des humains était grand sur la terre était pervertie. Il y a une certaine redondance des termes négatifs. Et on se rend compte qu'on se focalise sur la destruction, mais quelle en était la cause? Là, ici, au verset 11, on a « La terre était pleine de violence. » Il y a mal, perverti, violence.
Beaucoup de choses négatives.
Tout à fait, beaucoup de choses négatives. Et le mot violence, d'ailleurs, en hébreu, hamas, est aussi traduit par ce qui est faux, injustice. Et cela, on le vit peut-être aujourd'hui encore.
Ouais, malheureusement, on voit quand même. Hein.
Tout à fait. Donc, toute forme d'injustice, de violence, on voit qu'il y a une répétition dans les événements. Mais finalement, où donner de la tête? Y a-t-il encore de l'espoir aujourd'hui?
On espère bien.
Parce qu'effectivement, l'injustice était de mise, la fausseté, et le texte nous parle d'un déluge. Beaucoup se posent la question en disant, mais un Dieu qui crée et ensuite qui détruit, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire? Alors que, de manière sous-jacente, il y a une description beaucoup plus profonde. Le mot déluge, en hébreu, traduit par, enfin, se prononce comme suit, maboul. Et en français, par exemple, Ça veut dire quoi, ma boule, vous savez?
Ma tête?
Un petit peu... Non, non, plus toc-toc, non? Ouais.
Effectivement, ma boule, c'est celui qui a perdu la raison, voilà, celui qui est fou, effectivement. Bon, sans prétendre qu'il y ait un lien, mais on se rend compte que le déluge est intervenu parce qu'il y avait de la violence, parce qu'il y avait de l'injustice. En gros, on voit une certaine forme d'autodestruction. Et si on se focalise sur la portée négative de ces événements, on va se dire, mais où donner de la tête? Y a-t-il de l'espoir aujourd'hui? C'est la raison pour laquelle j'aimerais qu'on se focalise sur l'après. Certes, la Terre est remplie de violence à cette époque. Il y a le mal qui s'accroît, l'injustice et le déluge intervient. Mais à l'issue de celui-ci, on se rend compte que l'Éternel va établir une alliance. Et c'est au chapitre 9 qu'on retrouve le mot arc. J'établis mon alliance, je place mon arc au verset 13. Et l'arc, dans l'Antiquité, c'est aussi un outil pour faire quoi, vous savez?
Généralement,
tirer les flèches, c'est un outil de guerre. Et pourtant, cet arc dans le ciel est dépourvu de flèches, c'est un symbole. C'est l'antithèse de la destruction. Nous avons ici affaire à un Dieu qui désire restaurer. Un Dieu qui désire focaliser notre regard sur ce qu'il y a de positif. Et à travers cet arc, il y a un message sous-jacent que j'aimerais partager avec vous. Parce que ça fait un petit moment que j'avais un peu réfléchi sur ces différentes couleurs. Vous savez combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel?
Il y en a 7, non?
Je dirais, ouais, 7.
Effectivement, généralement, on dit qu'il y a 7 couleurs, mais c'est par rapport à Isaac Newton qui rajouter la 7e couleur, l'indigo, pour la faire correspondre aux gammes musicales, puisqu'il y a 7 notes. Mais à la base, l'arc-en-ciel est constitué de 6 couleurs principales que je vais vous...
Vas-y, explique-nous tout.
Je vais décliner. Parce qu'effectivement, rappelez-vous que dans le sanctuaire, dans l'Ancien Testament, pour pouvoir faire des sacrifices, il fallait se mettre aussi dos au soleil. La même posture requise pour observer l'arc-en-ciel.
D'accord,
intéressant.
Ok.
Ok.
Et la première couleur de l'arc-en-ciel, c'est le rouge, n'est-ce pas? Et si je vous parle du rouge, vous pensez à quoi automatiquement?
Au sang, oui,
ouais,
exactement.
Le sang, effectivement. Ce qui circule dans notre corps. Le sang, c'est la vie, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
La deuxième couleur, c'est le orange. Non. Je vous donne un indice, ce qui est orange, qui réchauffe, ça vous fait penser à quoi?
Au soleil.
La lumière.
Oui. Aussi, effectivement, on a le feu.
Ah, le feu.
Tout à fait.
D'accord.
La lumière, le feu. Rappelez-vous,
c'est vrai que
le
soleil
rouge,
est plutôt jaune. Hein?
Tout à fait. Mais en tout cas, c'est, le principe est bien présent. Donc, il y a le rouge, le sang. Deuxième, le feu. Troisième couleur. Après, est-ce que vous pouvez deviner? Après.
Ouh là là, tu me poses des questions difficiles.
Rouge,
violet,
orange,
vert.
Tu l'as dit pour le soleil.
Jaune.
Jaune, effectivement. Oh. Après le jaune, on a le vert. Après le vert, on a le bleu. Et après le bleu, on a le violet.
Mm-hmm.
Donc, si on tente de décrypter le message qui est encapsulé dans cette alliance, le rouge, c'est le sang. Le orange, c'est le feu. Le feu représente dans la Bible la présence de Dieu.
Tout à fait.
N'est-ce pas?
Ouais.
Le jaune, ça fait penser à l'or, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
L'or éprouvé par le feu. C'est une expression également qu'on retrouve dans la Bible.
Ouais.
Et dans le sanctuaire, il y a le chandelier d'or qui sert à éclairer, n'est-ce pas? Le vert maintenant. Lorsque vous pensez au vert, vous pensez
à la nature.
À la nature, à la croissance. Effectivement. Le bleu, dans le texte biblique, notamment, le sacrificateur, le souverain sacrificateur, sur son pectoral, il avait aussi une portion bleue. Il y avait les pierres, les 12 pierres, mais il y avait aussi du bleu. Et dans le livre de Nombres, il y avait un cordon bleu qui était sous le pan de la robe qui devait rappeler les commandements.
Okay.
En gros, le bleu, dans la Bible, peut représenter aussi l'obéissance. Okay. Et le violet, la dernière couleur, on peut dire aussi pourpre, c'est dans l'Antiquité, cette couleur était utilisée pour la royauté.
Exact,
n'est-ce
les vêtements.
Pas? Donc, si on reconstitue, j'ai répété plusieurs fois volontairement pour que ça puisse bien rentrer.
On ne va plus oublier, hein, j'espère.
J'espère.
Et rappelez-vous que le chiffre 6, c'est un nombre d'hommes. L'homme a été créé aussi le 6e jour. Donc, il y a un message destiné à l'humain. Rappelez-vous que la terre était bafouée. Il y avait le mal, la destruction, cette autodestruction. C'est Maboul, rappelez-vous du mot déluge. C'est intéressant, il y a des
échos. C'était la folie.
Oui, c'était la folie. N'y a-t-il pas un clin d'œil ici? Probablement. En tout cas, le sang représente la vie. Et dans une perspective christique, nous savons que le Christ nous a donné son sang. Son sang a coulé pour que nous soyons sauvés, n'est-ce pas? Et lorsqu'il est mort, il a laissé son esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est descendu sous forme de langue de feu. Par la suite, lorsque son Saint-Esprit est descendu, il y a le jaune, rappelez-vous le chandelier, qui éclaire pour que nous soyons la lumière du monde. Et cette lumière a pour objectif d'être en harmonie avec la création. Parce que Dieu désire restaurer le verre. Mais cette restauration ne peut se faire si nous ne sommes pas attentifs et que nous ne respectons pas, rappelez-vous le bleu, ses le commandements. Et lorsque nous serons dans cette synergie et dans cet état d'esprit, nous pouvons ainsi parvenir à la royauté. Voici le message qui est encapsulé, en tout cas selon l'interprétation que
on va plus regarder,
aujourd'hui.
On va plus voir l'arc-en-ciel de la même manière.
Tout à fait. Donc, il y a dans ce message une volonté de tourner les regards sur ce qui est positif et que l'exemple du Christ doit être ancré dans nos esprits. C'est le voleur qui est venu dérober, égorger et détruire. Mais lui, il est venu afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors que nous puissions être en harmonie avec la création, mais surtout dans un état d'esprit requis. Et que ce qui est négatif puisse disparaître au profit de ce qui est positif, ce qui va conditionner notre regard sur les événements. Donc à partir de ce message que je partage avec vous ce matin, c'est cette idée principale que je désire véhiculer à travers cette alliance que l'Éternel a établie et qu'il désire encore pour nous aujourd'hui.
Merci voilà. beaucoup.
Chères auditrices et chers auditeurs, si tu nous rejoins, tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'écouter Loïc qui nous a partagé une réflexion sur l'angle de vue que nous décidons d'adopter sur les événements de nos vies. Si tu regardes le symbole de l'arc-en-ciel, un des signes de l'amour de Dieu et d'alliance que Dieu a fait avec son peuple, celui-ci est né, selon l'histoire biblique, au cœur d'une histoire de déluge, une grande pluie qui a apporté de la destruction. Alors, Brian, Emma, et toi qui nous écoutes, bien sûr, ça vous parle?
Ouais, moi j'ai trouvé très intéressant. J'avais jamais entendu parler des couleurs avec qu'est-ce que ça signifie et tout et tout. Et je trouve vraiment intéressant de voir que des fois, s'il y a vraiment une répétition du négatif et tout et tout, donc le déluge, donc la destruction et tout, et si on tourne juste son regard et on voit l'arc-en-ciel qui vient après et toutes ces couleurs qui signifient quelque chose de positif, moi j'ai trouvé ça très beau.
Ouais, c'est vraiment l'importance du regard qu'on apporte sur quelque chose.
Moi, je comprends un peu mieux pourquoi, étant petit, je voulais toujours attraper cet arc-en-ciel. J'avais ce désir-là de vouloir l'attraper, il était loin. Mais voilà, ce désir, surtout d'alliance, en fait.
Tout à fait.
Ça reste une alliance, nous, on fait entre humains, si on veut se marier, si... voilà. Mais Dieu veut faire une alliance avec chacun d'entre nous. Et ça, je trouve vraiment mais juste incroyable. Et qu'il le signifie vraiment avec cette couleur, ces couleurs-là, cette beauté. Ça montre à quel point, en fait, il veut quelque chose de beau, de magnifique.
Tout à fait.
Ouais, et nous, dans notre vie, alors, quel regard nous portons aussi sur les choses qui nous entourent? J'ai bien aimé au tout début, Emma, ta chronique Dieu dans ma semaine. Et c'est vrai, des fois, on se focalise tellement sur ce qui est négatif qu'on n'arrive plus à voir la beauté, on n'arrive plus à retirer de leçons positives sur, sur tout ce qui nous entoure.
Tout à fait.
Des fois, on est trop fixé sur nous, notre vie, notre quotidien. Et on pense pas que, bah déjà, il y a certaines personnes qui vivent des choses beaucoup plus compliquées que nous, beaucoup plus difficiles, et qu'il faut juste tourner son regard et se dire qu'on a de la chance, que Dieu est avec nous et que ça va aller, quoi.
Mais c'est pas si facile parce que ça demande aussi un engagement de ta part. C'est-à-dire que c'est pas juste Dieu qui va tout faire, mais ça demande, comme tu le dis, en fait, de changer de regard. Mais c'est pas Dieu qui te change le regard dans un sens, c'est toi qui décides de dire, ben voilà, maintenant, je veux marcher avec Dieu, je veux être à ses côtés, mais c'est un engagement de ta part.
Ouais. Mais donc, est-ce que ça change complètement?
Qu'est-ce qui change
je
complètement?
Je veux dire, ce n'est pas non plus... Bon, bien sûr que ça compte beaucoup, mais ce n'est pas parce qu'on a changé notre regard que tout sera parfait.
Non.
Hein, il ne faut pas vendre du rêve non plus.
C'est clair,
ça
c'est
pourrait
clair.
Être bien
mais
comme ça.
Ça
mais
ça peut prendre du temps, effectivement. Il y en a d'autres, ben, ça peut être tout d'un coup. Mais il y a d'autres histoires, il y a d'autres vécus, et là, ça prend plus de temps. Et ça, c'est pas grave, c'est Dieu est là. Et
chacun
il est,
a son temps.
Tout à fait.
Et pour, oui, vas-y.
Oui, pour revenir sur ce que vous disiez, et notamment cette réalité qui parfois reste négative, malgré la décision de voir les choses différemment. C'est-à-dire qu'on peut tomber, on peut rater. On a toujours peur de l'échec. Et pourtant, l'échec est positif, parfois,
c'est vrai.
Bien souvent. Parce que l'échec nous permet d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'il faut
persévérer.
Et
de s'améliorer aussi.
Effectivement, on tire des leçons de tout cela. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas réussir d'un coup que ça ne va pas se produire par la suite. Il faut continuer. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé. Sauvé, c'est dans la notion de guérir. Dieu désire nous restaurer de manière holistique. Et dans notre parcours
d'une
terrestre.
D'une manière complète.
D'une manière complète, tout à fait. Et c'est vraiment très beau d'initier ce parcours avec ce Dieu-là.
Ouais. Et nous avons vu aussi dans le témoignage qu'Amandine a fait avec Béa, c'était vraiment pas évident. J'étais très touchée
avec
par son histoire.
Avec ce petit carnet, là.
Et
exact.
Ça a pris du temps avant qu'elle voie vraiment les choses positives.
Exact.
Aussi,
hein. Mais là, elle a été abandonnée par son mari. Elle avait quand même des enfants à charge. Et le fait d'avoir noté chaque jour un point positif dans sa vie, ça ne lui a pas enlevé toute la charge, toute la responsabilité qu'elle avait à chaque jour. Mais ça lui a permis quand même de prendre un peu de distance et de se focaliser sur quelque chose de positif.
Ouais. Et puis, pour revenir aussi à la chanson qu'on a écoutée, c'est vrai que dans nos sociétés, on est beaucoup... Il y a beaucoup de messages un peu de découragement, ou même quand on va au travail, on dit souvent métro, boulot, dodo.
C'est ça.
Toujours cette répétition-là.
Cette routine qui s'installe.
Cette routine où on dit, tu tombes dans la routine, après, quand tu tombes dans la routine, c'est fini, quoi. tu t'en sors plus. Alors que si, en fait, tu peux t'en sortir.
Ouais. C'est pas évident, mais on peut.
Tout à fait. C'est très beau ce que tu dis, parce qu'on se retrouve dans une certaine forme de spirale infernale. Et on retrouve cette même spirale dans cette violence successive juste avant le déluge. Et c'est une sorte d'autodestruction. Et sortir de ce paradigme mortifère, pour pouvoir se projeter vers un avenir plein d'espérance. Et c'est d'ailleurs ce que le texte nous propose. Voilà.
Je ne suis plus celle que j'étais. Tout ce qui m'enchaînait est dans le passé. Je ne vois plus aucun intérêt d'y retourner et de m'y enfermer. Car maintenant, je sais que je n'avance pas seule. Maintenant, mon passé ne décide pas de mon présent. Même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui est en ne saurait être comparé à la gloire qui est à venir, qui en nous se révélera. Si Dieu est au contrôle de ma vie, je n'ai plus à me soucier du lendemain. Sa parole est une lampe à mes pieds, la lumière qui éclaire mon chemin. Et maintenant,
je sais que je n'avance pas seul.
Maintenant, mon passé,
les petits pas de présent, même les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir, qui en nous se révèle.
Ou à la chance, c'est en toi que je place ma foi et mon espérance. Car il n'est d'affliction que ta main ne permette. Dieu de gloire, Seigneur de ma vie à jamais.
Je ne crois pas au hasard ou à la chance. C'est en toi que je place ma foi et mon espérance.
Car il est d'affliction.
Car il est d'affliction.
Ta main ne permet.
Seigneur de ma vie à jamais.
L'hymne de mon espérance. Le chant de ma victoire.
Nous voilà dans la chronique Questions et Vérités. Dans cette chronique, nous aimons échanger avec notre invité sur son vécu de foi pour en savoir un peu plus sur comment Dieu fait partie de sa vie, de son quotidien. Loïc, tu as accepté de jouer le jeu de nos petites questions. Merci.
Tout à fait.
Bravo Loïc.
Merci.
Il n'a pas encore répondu. Hein.
Ça va bien, ça va bien. Alors c'est parti. Tu as parlé d'état d'esprit qui conditionne notre vision du monde en lien avec notre foi en Dieu. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager sur un angle de vue que le Seigneur t'a amené à adopter ?
Tout à fait. Alors, de manière succincte, j'avais pu partager un petit peu mon expérience d'un bon sabbat chez vous, mm-hmm. sur Espoir Média. Et j'ai été récemment hospitalisé à la suite d'un douloureux burn-out.
Okay.
Et ça a été un événement relativement difficile à traverser.
Ah, j'imagine.
Et c'est clair qu'à ce moment précis, lorsqu'on est face à des difficultés qui font office de montagne, on n'a pas forcément le moral. Je ne veux pas dire que c'était facile, mais l'état d'esprit a été déterminant. Non seulement on a été solidaire et on s'est accroché au Seigneur à ses promesses, et malgré ce qui était face à nous semblait négatif, nous avons réussi par la grâce de Dieu vraiment à surmonter cela. Et cette expérience, je m'y accroche. Parce que là, aujourd'hui, je suis avec vous. Et il y a 2 ans et demi, cela aurait été impossible.
Ouais.
Parce que d'ailleurs, les diagnostics n'étaient pas forcément
donc
très optimistes.
Donc là, quand tu dis « on », c'était ta famille, je pense, qui était avec toi, qui t'entourait.
Tout à fait, la famille. J'ai aussi eu beaucoup de prières de ma communauté en Martinique, où beaucoup de personnes ont pensé à moi. Parce que ça a été vraiment…
Tu t'es senti soutenu.
Je me suis senti soutenu.
Ouais,
oui, je me suis senti soutenu.
Hein.
Et j'ai eu vraiment des amis très, très proches que j'ai rencontrés d'ailleurs ici, à mon arrivée à Collonges. Et rien ne se passe par hasard, mais dans la continuité de ce que nous avons déjà énoncé, le positif attire le positif. Lorsqu'on se focalise sur ce qui est vraiment, lorsqu'on a l'optimisme en soi, eh bien, le Seigneur nous permet de traverser les difficultés. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est ce que je voudrais transmettre à peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui passe par une situation compliquée, c'est vrai, mais tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est un verset. J'ai pris le devant, peut-être.
Ah, c'est vrai. C'est justement, c'est ce qu'on arrête de poser. Ouais.
Ton verset, il se trouve dans
quel... Vas-y, tu peux nous le redire.
Tout à fait. Alors, j'en ai deux, effectivement, mais celui-là, c'est le principal. Tout est possible à celui qui croit.
Ça se trouve.
Voilà.
Alors, ça se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 13. Et c'est une parole qui est attribuée au Christ, qui va encourager les disciples. Et dans cette perspective, tout est possible à celui qui croit. Ça montre que lorsqu'on a un but déterminé et qu'on s'y accroche, même si ce n'est pas forcément facile et qu'on subit des échecs, tôt ou tard, on finit par atteindre nos objectifs. Et c'est des fois lorsqu'on se décourage qu'on passe à côté d'une grande bénédiction. Et là, le fait déjà aussi d'être ici avec vous, c'est une bénédiction pour moi.
Ah, pour nous, voilà, aussi, pour nous aussi, bravo.
Et le deuxième texte, c'est dans Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque on fait cette rencontre authentique avec le Christ des Écritures, eh bien, on est libéré de toute forme d'aliénation. C'est vraiment une liberté. On se sent heureux, mais vouloir être des diffuseurs d'espérance. Ouais. C'est d'ailleurs voilà, l'objectif.
J'aime bien ce mot diffuseur d'espérance.
Ah, ça inspire, hein, ça apporte quelque chose. Justement, c'est vrai que dans ton message, tu as beaucoup parlé de voir son côté, le côté positif des choses.
Tout à fait.
Et d'attirer son regard vers le positif. Et là, comment toi tu fais? J'ai déjà mon idée, hein, d'après ce que tu as raconté là. Comment fais-tu cela quand toutes les choses te semblent difficiles?
Voilà, alors c'est vrai que je ne prétends pas apporter une solution ou bien le dernier mot sur le sujet. C'est vrai que c'est subjectif. En tout cas, par rapport à mon expérience personnelle, quand je me sens au plus bas, comme je l'ai dit, je continue à m'accrocher aux promesses du Seigneur. Mais il faut aussi dire, et voilà, je ne vais pas me parler de cela sans parler de mon épouse, parce que Elle me soutient beaucoup dans cette démarche, donc c'est un soutien réciproque.
Bah c'est bien,
vrai.
Vas-y, profite, fais ta déclaration d'amour.
Franchement, elle est extraordinaire. Elle m'a toujours soutenu, même dans les moments les plus difficiles, lorsqu'on ne croyait plus en moi, ni à cette faculté de rebondir, ni voilà.
Elle était à mes côtés.
Elle ne m'a pas lâché. Pour moi, ça a été vraiment un soutien extraordinaire, un moteur. Ma famille également, on a eu vraiment cette proximité, mais en tout cas, l'objectif, c'est de rester focus. Moi, c'est ce que je peux dire. Même dans la difficulté, même si on ne voit pas l'issue, il faut se dire que les émotions, ce qu'on ressent, c'est la météo de notre âme, de notre être intérieur. Mais on doit transcender ces choses-là. C'est juste un ressenti. Mais j'ai quand même mon but toujours focalisé dans mon esprit et je veux l'atteindre.
Ne pas l'oublier.
Tout à fait, ne pas l'oublier, s'y accrocher même lorsque c'est difficile, parce que plus le combat est dur, plus la victoire est belle.
Oh là là, c'est un poète, cet homme.
C'est beau, c'est beau.
Y a plein de manières, de lieux, de vécu de prière différentes. Pourrais-tu partager à nos auditeurs une de tes manières de vivre des temps de prière avec Dieu?
Ah oui, alors les Écritures nous parle d'un Christ qui se mettait bien souvent à l'écart, le matin très tôt, pour prier. Et c'est vrai que c'est une pratique qu'il ne faut pas négliger. Et le matin, à mon réveil, je passe un temps vraiment isolé.
Individuel,
voilà, sans bruit. Mais vraiment pour me focaliser non seulement sur les objectifs que je désire atteindre, mais pour la volonté, que la volonté de Dieu s'accomplisse également dans ma vie. Donc ce moment-là est très ressourçant. Comme on l'apprend aussi en cours, on a eu un cours qui s'appelle formation spirituelle et on nous parle de remplir son bassin intérieur. Parce que pour pouvoir transmettre, il faut d'abord recevoir.
C'est vrai.
Il faut accepter de recevoir, se remplir parce qu'on se vide. Et c'est important de pouvoir passer ce temps de restauration matinale. En tout cas, ça me fait du bien à titre personnel.
Voilà, petite suggestion à nos auditeurs.
Ouais. Ah, je me retrouve bien là-dedans en tout cas. Tu es musicien, hein, donc est-ce que tu aurais un chant que tu apprécies particulièrement, un chant chrétien?
Oui, c'est vrai, il y en a pas mal, mais j'ai choisi celui-ci en adéquation avec le thème d'aujourd'hui, de ce culte, le chant « Persévère ».
Ah oui,
voilà. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Moi, je trouve ces paroles vraiment inspirées.
Est-ce que tu pourrais nous dire l'auteur de ce chant?
Alors, là, tu es en train de me poser une
question. Est-ce que c'est pas Olivier Choua? C'est lui.
Ouais. Je pourrais pas vous aider. Lui, hein.
Voilà. Voilà. Voilà.
Super. Pour les auditeurs qui voudraient écouter ce chant.
Parce que ces paroles donnent de l'espoir, mais surtout permet à ceux qui l'écoutent de ne pas renoncer à leurs rêves. Parce que bien souvent, la société nous pousse à...
Ouais, c'est vrai.
Mettre de côté ce à quoi on aspire. Et pourtant, Dieu, il désire que nous puissions nous accomplir, nous épanouir. Ouais. Donc, si vous avez un rêve, quelle que soit la difficulté devant laquelle vous êtes, mettez-vous à l'esprit que vous êtes capable de l'atteindre, car le Seigneur est là et que tout est possible à celui qui croit.
Bravo. Voilà. Et juste la dernière question, je peux
Oui, oui.
Est-ce que tu as un livre de la Bible préféré?
Alors, oui. Là encore, c'est une question très difficile.
Bah oui, on aime bien poser des questions difficiles ici.
Tout à fait. Alors, il a fallu quand même trancher. Alors, ce serait le livre de Daniel. Voilà, le livre de Daniel.
Difficile, hein, comme livre.
Ce livre prophétique qui est aussi le miroir dans l'Ancien Testament de l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Donc, pourquoi Daniel? Parce que l'attitude du personnage qui est décrit dans ce livre nous montre que malgré la déportation, malgré la situation qui allait en sa défaveur, en apparence, il a réussi à s'adapter. Et cette adaptation lui a permis de gravir les échelons et d'arriver à une place que Dieu a utilisée pour qu'il puisse accomplir la mission. Donc moi, je trouve vraiment cette résilience face à l'oppression remarquable.
Face aux difficultés.
Tout à fait.
Bravo.
Merci beaucoup à toi d'avoir participé à ce petit jeu de questions et vérités. Et toi, cher auditeur, tu as répondu quoi à ces questions ?
J'aimerais t'inviter à présent à un moment de prière avec Dieu. Où que tu te trouves, tu peux prendre un temps pour te tourner vers notre Papa Céleste. C'est Loïc qui va nous conduire et que ses paroles puissent devenir les nôtres.
Nous te sommes infiniment reconnaissants en cet instant pour ce moment de culte que tu nous as permis de passer ensemble. Et nous sommes convaincus que lorsque nous sommes réunis dans un même état d'esprit, tu es présent parmi nous. Ce message de réconfort, d'espérance qui transparaît de ce culte, nous voudrions qu'il puisse être le désir de chaque auditeur, de tous ceux qui nous écoutent, de tous ceux qui ont un rêve, qui le chérissent, de tous ceux qui sont face à des difficultés. Que tu puisses leur rappeler que tu es avec chacun d'entre nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. En dépit de la violence, en dépit du mal, la croissance de l'injustice, tu poursuis ton plan et tu l'atteindras. Donne-nous l'état d'esprit adéquat, l'angle de vue nécessaire à surmonter ces obstacles en vue d'une restauration certaine. Et nous te demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, auditeur, auditrice, tu n'échapperas pas à l'action du jour. Alors, Emma, que nous proposes-tu ?
Il est venu le moment de mettre en action ce que notre invité nous a dit. Et il y a une chose qu'il a dit qui a particulièrement attiré mon attention. C'est l'arc-en-ciel, donc le fait de voir les couleurs et le côté positif au lieu de penser au déluge, au négatif. Et comme il l'a dit, voir le côté positif dans les choses qu'on vit, c'est un des ingrédients pour une vie plus heureuse et remplie d'espoir. Et si on essayait de voir le côté positif dans notre vie de tous les jours? Pour ça, je vous propose, chers auditeurs, un défi. Souvent, durant la semaine, on a des moments de bas, des moments où on est un peu trop stressé, où on voit pas la fin de la semaine. Et si on pensait à l'arc-en-ciel? Cela nous rappellerait la promesse que Dieu nous a faite avec l'arc-en-ciel, qu'il reviendrait. Si on a du mal à s'en souvenir, on peut mettre une photo d'un arc-en-ciel en fond d'écran du téléphone ou se dessiner un arc-en-ciel sur la main, je sais pas.
Ouais, c'est une bonne idée là d'avoir cette image d'arc-en-ciel visible quelque part pour nous rappeler son importance, n'est-ce pas? Rappeler l'état d'esprit dans lequel on peut le voir.
Exactement. Et pour ceux et celles qui veulent aller encore plus loin, tu peux, comme Béa dans le témoignage « Dieu agit », investir dans un petit carnet ou juste noter dans ton téléphone ou garder en tête pour tes prières du soir des détails de la journée pour lesquels tu es reconnaissant.
Eh ben merci pour ton action. Alors moi je suis pas un fin dessinateur, donc je vais plutôt me pencher sur des fonds d'écran hein, déjà fait sur mon téléphone, ça ira très bien.
Moi je vais plutôt faire le petit carnet là, ah, ouais. Et prendre des notes.
Eh ben alors auditeurs, auditrices, notre émission touche déjà à sa fin. Merci de nous avoir accompagnés, merci Emma, merci Mildred pour vos partages, merci à toi Loïc pour ton message et l'échange qu'on a pu avoir avec toi. D'ailleurs, tu nous fais le plaisir de revenir la semaine prochaine. Et en quelques mots, de quoi vas-tu nous parler ?
Alors, je vais vous parler d'un homme, un récit d'ailleurs de la Bible, dans le livre des Actes, cette fois-ci.
Okay.
Et le miracle qui va être opéré par Paul dans le livre qui vient d'être énoncé. Mais il va habiter dans un endroit particulier. Cet endroit, c'est Lystre. C'est vrai que c'est une ville sur laquelle on ne se focalise pas forcément trop, mais qui a une signification et qui nous pourrait nous permettre d'avoir un nouvel angle de vue, toujours positif, sur ce miracle qui a été opéré.
Donc, ok, il y a un miracle en vue.
Oh là là. Wow. Alors, auditeurs, auditrices, rendez-vous la semaine prochaine. Hein. Je te souhaite une belle journée, une belle semaine sous le regard de Dieu et je te dis à très vite. Ciao.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.